Magloire Indéhi, chef du bureau de la fondation Friedrich Naumann, nous sommes très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui, en ce jour où l'ex-chancelière fédérale allemande Angela Merkel reçoit le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Et pour nous, il est très important de marquer un arrêt sur le fonctionnement, on dira, de la chancellerie allemande et également de cette symbolique-là, qu'Angela Merkel soit en Côte d'Ivoire pour recevoir ce prix. Alors déjà, parlez-nous de la chancellerie allemande.
D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Il faut comprendre que la chancellerie de la Fédération de l'Allemagne, c'est l'administration fédérale suprême en charge donc de la mise en œuvre, de l'exécution des décisions qui sont prises au niveau national. Il faut comprendre que cette chancellerie-là fonctionne en tenant compte de deux choses. La première chose, les Allemands ont tenu compte de leur histoire politique. Et la deuxième chose, c'est l'organisation territoriale. Ça veut dire que la chancellerie est mise en place, il y a un président de la République qui n'est pas bien souvent connu, mais l'Allemagne est un président de la République qui est élu par un collège électoral qu'on appelle l'Assemblée fédérale à part. Donc ce n'est pas le peuple directement qui élit le président de la République, c'est un collège électeur. Maintenant, le chancelier est élu au moment des élections législatives. Donc, lorsque les élections législatives ont lieu, le peuple va élire les parlementaires. Les parlementaires, c'est lorsque les parlementaires sont élus, parmi eux, il va avoir maintenant l'élection du chancelier. Le chancelier, en réalité, le chancelier, c'est comme dans le système francophone, le premier ministre. Mmh. C'est le premier ministre, c'est le chancelier qui a les pleins pouvoirs pour la mise en œuvre, l'exécution des programmes, la mise en œuvre des lois. Donc, l'exécution des lois. Voilà. Donc, ce système-là permet à l'Allemagne, en tirant leçon de leur histoire, ils n'ont pas voulu laisser le pouvoir dans les mains d'une seule personne pour éviter ce qui s'est passé avec les nazis Hitler. Donc, le système parlementaire permet donc de contrôler, d'avoir le Parlement en contrôle permanent. Donc, le Premier ministre est issu de l'Assemblée nationale, il est désigné par l'Assemblée nationale, donc il est responsable, il est redevable vis-à-vis de l'Assemblée, vis-à-vis du Parlement. Donc, c'est comme ça que la chancellerie est mise en place. Donc, c'est l'administration centrale qui met en œuvre les politiques publiques, l'administration centrale qui met en œuvre les lois. Donc, c'est un peu ce que nous, on a ici, le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir exécutif en réalité. Mais en Allemagne, le pouvoir exécutif est scindé en deux. Il y a le président de la République qui a un rôle beaucoup plus protocolaire. Il a une fonction, il incarne l'unité de la nation. Donc, il n'est pas dans l'exécution, dans la gestion quotidienne du pouvoir. La gestion du quotidien du pouvoir est laissée au chancelier qui met au quotidien en œuvre donc, la vie politique.
Quelles sont les actions, par exemple, que le président de la République allemande mène?
Le président, c'est lui qui, par exemple, lorsqu'il y a une loi qui est votée, c'est le président de la République qui va signer la promulgation de la loi. Le président de la République a une fonction honorifique dans l'ordre protocolaire. Il incarne l'unité de la nation. Donc, il doit veiller à ce que l'État soit stable. Il veille à ce que les lois soient respectées. Donc, il incarne cette instabilité morale de l'État. Mais globalement, c'est lui qui promulgue la loi. Voilà, ce n'est pas le chancelier, c'est lui qui promulgue la loi. Donc, toutes les lois qui sont prises, il doit veiller à ce que la loi là, est conforme aux règles et tout ceci. Et la loi, mais il demande à ce que la loi soit exécutoire. Il a un rôle de garant moral. C'est surtout ça. Il a un rôle de garant moral. C'est pourquoi quand vous regardez la plupart des présidents de la République allemande, ils ont une certaine carrure qui sont au-dessus, se mettent au-dessus de la mêlée pour veiller à ce que il y ait une certaine stabilité politique, puisque ce sont les parlementaires qui désignent le premier ministre. Souvent, c'est très chaud dans le choix. Donc, ils veillent à ce que la gestion quotidienne du pouvoir ne fragilise pas l'État. Donc, il est un peu au-dessus de toutes les contingences quotidiennes pour veiller à l'unité de la nation. C'est vraiment ce rôle qu'il joue fondamentalement.
Bien, c'est bien noté, en tout cas, bon à savoir hein, sur ce régime en Allemagne, surtout concernant la chancellerie et le pouvoir exécutif de façon générale. Alors, on va parler à présent de la particularité du mandat d'Angela Merkel. Durant son mandat, elle a mené des actions, elle est souvent même aller contre vents et marées au niveau de l'Europe ou des décisions. C'était une dame de caractère, on le disait par moments. Quelle était la particularité de cette dame-là quand elle était en fonction en tant que chancelière allemande?
Oui, bon, je peux résumer la singularité du mandat. Donc, les quatre mandats, elle a fait quatre mandats de 4 ans, d'Angela Merkel par 2 mots, stabilité et efficacité, ou alors sobriété, stabilité et sobriété. Alors, il faut dire qu'elle est arrivée dans un contexte politique d'une petite crise politique plus ou moins, parce qu'elle est arrivée à la suite d'élections anticipées. Vous savez que le chancelier qui était là en 2004-2005, Gerhard Schröder, il avait demandé donc des élections anticipées parce qu'il y avait des petites tensions politiques au niveau de l'Allemagne. Donc c'est dans ce contexte que Angela Merkel vient au pouvoir. Il y a eu même une tension entre Angela Merkel, entre le parti d'Angela Merkel et le parti de Gerhard Schröder, puisque dans cette coalition, il y a eu des discussions qui allaient prendre la tête de la coalition. Donc, il y a eu cette tension entre elle et Gerhard Schröder jusqu'à ce que, finalement, Gerhard Schröder puisse céder la tête de la coalition à Angela Merkel. Donc, c'est dans cette condition qu'elle est venue au pouvoir. Donc, à la suite d'élections anticipées, mais à la suite des tensions internes à la coalition qui devait gérer donc le pouvoir. Et quand vous regardez bien autour de cette période, 2005, 2006, 2007, il y a la crise financière internationale. Donc, le monde est frappé par une crise financière suivie par une crise de la zone euro qu'on appelle la crise de la dette. Mais quand vous regardez bien, pendant toute cette période, elle a su manager dans cette situation de tension interne, mais aussi de tension internationale, elle a su stabiliser son pays, elle a su créer une dynamique interne, mais elle a aussi réussi à se positionner sur la scène internationale. Vous avez pu voir que l'Allemagne n'a pas subi la crise comme les autres pays l'ont subi dans la zone euro. Donc, c'est pourquoi je dis son mandat peut être résumé par la stabilité et la sobriété. Mais elle a aussi réussi des choses comme la simplification du système fiscal en réduisant considérablement les dépenses publiques. Voilà, que l'argent ne soit pas gaspillé, que l'argent soit orienté dans des secteurs les plus essentiels. Elle a réussi au moment où il y avait la crise du chômage. Vous allez voir qu'en Allemagne, à cette période, elle a réussi à faire asseoir les syndicats et le patronat qui ont réussi à trouver des accords, notamment sur le chômage partiel. Elle a réussi toute cette dynamique. Et puis, ce qui est aussi important dans son mandat, c'est sous son mandat que l'Allemagne est sortie du nucléaire. Donc, autour de 2011, que l'Allemagne est sortie du nucléaire, qui aujourd'hui fait de l'Allemagne l'un des pays qui exprime une volonté politique autour de l'économie verte, de la sobriété énergétique.
La question, si vous regardez
la question écologique. Mais l'Allemagne investit aujourd'hui suffisamment de ressources dans les énergies renouvelables. Mais tout ça a démarré autour donc du mandat d'Angela Merkel. Mais on peut aussi noter au niveau social. Au niveau social, elle a eu d'importants résultats. C'est sous son mandat qu'on a eu ce qu'on appelait les indemnités d'éducation qui permettaient donc de compenser le manque de structure éducative, donc notamment les crèches, les jardins d'enfants, qui étaient une subvention qui était accordée aux femmes qui pouvaient rester à la maison de s'occuper des enfants. Donc, tout ceci a permis donc la stabilité interne. Mais au niveau international, il y a eu le sauvetage donc de l'euro. Elle a contribué vraiment à sauver l'euro. L'Allemagne a joué un rôle important. Le pouvoir d'achat allemand. Donc, bref, le mandat d'Angela Merkel, je veux dire, les 4 ans, c'est vrai, tout n'a pas été parfait, mais les quatre mandats qu'elle a eus, elle a travaillé à la stabilité de l'Allemagne, au positionnement international de l'Allemagne. Donc, sur la scène aujourd'hui, de 2005 à jusqu'à ce qu'elle parte, on a pu voir un rayonnement international de l'Allemagne. Donc, c'est pourquoi je dis vraiment stabilité et sobriété également ont marqué donc son mandat. Mais vers la fin, on a vu qu'il y a eu un peu de crise. Il y a eu la tension, notamment sur la question migratoire. Oui. Ça a entraîné, bien entendu, les résultats qu'on a connus. Je pense que ça a dû jouer aussi sur le résultat de la CDU, par exemple.
Dites-nous, est-ce que c'est véritablement un impact fort qui a été, comme vous le disiez à l'instant, mais qui est perceptible, on dira, et qui a vraiment contribué à l'épanouissement de certains peuples à partir de l'Allemagne, des peuples réfugiés, je dirais, qui ont pu avoir cette facilité d'entrer sur le territoire allemand.
Oui, je pense que ça a été un tournant fort. Ça a été un tournant fort du mandat donc d'Angela Merkel.
Cela n'a pas été également facile.
Ah non, ça, donc c'est facile. Dans mon analyse, je pense que tous ces facteurs, quand vous regardez les différents résultats en interne de l'Allemagne et même de la CDU, je pense que les choix politiques de la chancelière à ce moment-là ont joué sur la vie du parti. Puisqu'il y a eu beaucoup, quand vous regardez, il y a eu beaucoup de remous en interne. Beaucoup d'Allemands n'étaient pas d'accord. Beaucoup d'Allemands n'étaient pas d'accord, mais elle a fait un choix. Et il y a une célèbre expression qui lui a collé. Quand elle a fait son discours, elle a dit, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Pour dire que au début, elle était un peu hésitante, mais elle a fait le choix de l'humanisme. De dire, tous ces milliers de personnes qui fuient la guerre, qui fuient les difficultés, la Turquie,
La Syrie.
l'Afghanistan, tous ces réfugiés, la Syrie, tous ces réfugiés-là, tous ces réfugiés, elle a fait le choix de les accueillir. L'Allemagne a accueilli près d'un million.
Oui.
Dans le quota qui était prévu, ce n'était pas sa mère. Hein. Elle a accueilli énormément, alors que l'Europe refusait énormément de réfugiés. Et l'Allemagne a mis en place, en tout cas, il y a eu des politiques, notamment la politique d'intégration culturelle, la politique d'intégration culturelle pour permettre à tous ceux qui viennent d'autres cultures, d'autres civilisations, de pouvoir s'intégrer à la société allemande. Il y a eu des programmes pour apprendre l'allemand, des programmes pour découvrir les institutions allemandes, pour former ces gens-là qui viennent à découvrir, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays si on n'y est pas intégré fondamentalement. Tous ces migrants qui venaient de l'autre côté, c'est généralement qui étaient en rupture avec la civilisation, j'allais dire la culture allemande. Donc, il y a des programmes d'intégration culturelle, mais il y a aussi d'insertion socio-économique pour faciliter l'insertion socio-économique de tous ces gens qui venaient. Donc, je pense qu'elle a reçu le coup. Mais aussi, il faut noter que aujourd'hui, la société allemande est très vieille. C'est l'une des populations, après le Japon, dans le monde, qui a une population très vieillissante. Donc, stratégiquement, on peut dire aussi que toute cette intégration de tous ceux qui venaient aussi a permis à l'Allemagne de maintenir sa stabilité économique parce qu'il faut la force de travail, il faut financer la retraite et tout ça. Donc, je veux dire, stratégiquement, cela aussi a permis à l'Allemagne de profiter de cette main-d'œuvre qui venait, de pouvoir faire tourner les entreprises, de pouvoir faire tourner l'économie. Toute l'Allemagne n'a pas fondamentalement apprécié et on l'a vu, les résultats qui ont suivi, elle n'était pas candidate, mais son parti a perdu quasiment les élections parce que, voilà, tout le monde n'a pas apprécié donc cette politique en faveur donc des réfugiés. Mais à mon sens, au moment où elle prend la décision, je pense que c'est un choix qui a été fait dans l'intérêt donc de l'humanité. Et le prix Félix Houphouët-Boigny, pour moi, vient comme.
Justement, j'allais poser la question. Toutes ces actions qui ont été entreprises par l'ex-chancelière fédérale allemande lui permettent aujourd'hui d'être lauréate du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Quel signal à travers un tel prix?
Au regard de l'action majeure, en tout cas à la fin de son mandat d'Angela Merkel, elle a fait beaucoup de choses, mais je pense que ce prix lui est accordé, lui est décerné à cause de son action en faveur donc des migrants. Je pense que c'est l'un des messages. Mais le message ici, c'est que Houphouët-Boigny lui-même a été un homme d'ouverture, a été un homme d'ouverture. Houphouët-Boigny a été un homme d'intégration. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire de 1900, avant même 1960 jusqu'à aux indépendances, la Côte d'Ivoire est un pays d'ouverture, d'intégration de tous les peuples. C'est l'un des rares pays où vous avez plus de 24% de la population étrangère. Donc, c'est un appel à l'humanité entière à deux choses. C'est l'appel à l'humanisme dans des situations de crise, dans des situations de crise où la dignité humaine est mise en danger. On doit se surpasser. On doit être capable d'aller au-delà de nos idéologies. On doit être capable d'aller au-delà de nos ressentiments pour ouvrir les mains, ouvrir les bras aux autres. Mais le deuxième message après l'humanisme, c'est le sens du devoir. C'est le sens du devoir. Parce que le choix qu'elle a fait dans le contexte de la gouvernance dans lequel elle était, il faut comprendre que c'est un choix qu'elle a fait, elle a assumé. Peut-être ça lui a coûté les résultats que son parti a subis, mais à un moment donné, il faut faire un choix. Lorsque le devoir nous appelle, il faut pouvoir y répondre. Donc, pour moi, c'est le signal que ce prix donne à l'humanité tout entière. Faire preuve d'humanisme et répondre à l'appel de l'humanité quand il faut. Avoir ce sens du devoir, et je pense qu'il n'y a pas mieux que Félix Houphouët-Boigny, qui a incarné aussi cela en partie, ces valeurs-là, qui sont récompensés ici.
On dira effectivement que c'est un signal à l'endroit de l'humanité tout entière, le fait qu'elle reçoive
Oui.
ce prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. Alors son parcours, le parcours d'Angela Merkel, en termes de référence ou de modèle pour la jeune génération, en termes d'éducation aux valeurs civiques et citoyennes et aussi démocratiques, alors qu'est-ce que les jeunes pourraient retenir du parcours de cette dame?
Je la connais pas vraiment parfaitement, mais pour le peu que j'ai pu voir d'elle, j'ai pu suivre son parcours, lire sa biographie et tout. Ce que j'ai retenu du parcours, déjà, de son parcours, depuis même dans la division de l'Allemagne, puisqu'elle était dans la zone, dans la République démocratique, donc dans la partie est de l'Allemagne. Mais déjà à cette époque, on a pu voir la résistance face à la dictature, la résistance face à l'absence de liberté. Donc, ce que je vois ici, c'est la conviction d'une femme qui assume ce qu'elle croit, qui assume ce qu'elle veut. Tout son parcours politique, elle a démontré que ce qui est le plus important, c'est de croire en quelque chose. Elle croit en des valeurs, elle s'est attachée à des valeurs comme la liberté, elle s'est attachée à des valeurs comme le progrès, et elle ne les a point négociées. Elle ne les a point négociées, même lorsqu'elle était sous la dictature de l'Allemagne de l'Est. Elle a résisté. Donc, c'est une forme de conviction. Deuxième chose que je retiens de son parcours, c'est l'amour profond pour son pays. Quand vous regardez, elle a été ministre plusieurs fois avant d'être chancelière, mais quand vous regardez comment elle s'est consacrée dans sa tâche, elle a été chancelière. On a pu voir l'amour qu'elle a pour son pays. Elle n'a pas lésiné sur les moyens. Elle n'a pas fléchi. Elle est restée constante et a démontré qu'il fallait sauvegarder les intérêts de son pays. Il fallait sauvegarder les intérêts de l'Allemagne. Elle l'a fait brillamment. Elle l'a fait bien. Et puis la troisième chose, c'est la rigueur. Ce que je retiens de son parcours, c'est la rigueur. On ne peut pas diriger un pays comme l'Allemagne, avoir les résultats qu'elle a eus sans rigueur. Même dans sa posture, dans sa manière de se tenir, souvent même, certains le disent, sa manière même de se vêtir, on sent cette rigueur. Et elle est l'une des rares chancelières à avoir décidé de rester dans son appartement. J'ai la chance d'aller, de voir l'appartement où elle vit. Elle a vécu, elle a décidé de ne pas vivre à la chancellerie, qui est la résidence officielle, mais elle est restée dans un appartement là où elle a toujours vécu. Donc, ça montre son état d'esprit, ça montre son état d'esprit, et c'est un appel pour les jeunes, c'est des valeurs à partager, avoir de la conviction, croire en quelque chose, être attaché à cela, quel que soit ce que cela peut coûter, mais aussi aimer son pays profondément et le servir avec tout ce qu'il faut. Mais aussi, je retiens autre chose, j'ai même écrit cela récemment, elle a eu des mentors, Helmut Kohl, par exemple, mais elle a appris auprès des gens, elle a appris auprès de certains leaders. Ça aussi, c'est un message pour les jeunes. Et la politique est très exigeante, on doit l'apprendre. On doit l'apprendre auprès des gens qui s'y connaissent, qui ont envie de partager des expériences. Et c'est comme ça, son mentor même l'appelait la petite fille, parce qu'elle était très jeune à cette époque-là. Donc, accepter d'apprendre. Mais lorsque il y a eu des contradictions entre elle et son mentor, je le disais tout à l'heure, c'est la conviction qui a prévalu. Et quand il fallait faire des choix, elle a fait des choix qu'elle a assumés jusqu'au bout. Et quand vous regardez, même pour terminer, même sa famille, sa mère était du parti de sociaux-démocrates, du SPD. Sa mère est SPD. Son frère était du parti écologique, du parti des Verts, mais elle a fait un choix qu'elle a assumé, qu'elle a cédé au.
Oui.
Donc on peut imaginer qu'elle a subi, elle n'essaie pas de subir l'influence des autres, mais je crois qu'elle reste une femme ouverte aussi d'esprit qui accepte la contradiction. On l'a vu même la loi sur l'homosexualité, le mariage pour tous. Elle était opposée à cette loi. Elle a voté contre. Mais lorsque la voix a été adoptée, a été votée à l'unanimité, elle s'est pliée. Elle s'est dit, ce n'est pas mon opinion, mais j'accepte parce que la majorité du peuple, du Parlement, a voté en faveur. Donc ça montre aussi l'état d'esprit d'ouverture que a cette dame qui doit inspirer le jeune qui veut s'engager dans la politique, dans la gestion de l'État.
Et comment est-ce que vous faites la promotion de ce genre de valeurs à travers votre fondation, Friedrich Naumann?
Oui, ce que la Fondation fait, c'est à travers différents programmes de formation que nous déployons. Nous avons des programmes comme Politique Lab, qui permet à des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans de se former sur les idéologies, de se former sur les instruments de gouvernance, sur les politiques publiques, de se former comment élaborer un projet de société, comment défendre un projet de société. On a des programmes comme l'École de la Liberté, où les jeunes viennent apprendre qu'est-ce que la liberté. Comment défendre la liberté, comment argumenter, comment défendre ses idées. Nous avons des programmes comme l'incubateur politique. L'incubateur politique est ouvert à des gens qui ont au-delà de 40 ans, qui veulent s'engager vraiment pour des postes électifs. Donc nous les encadrons, nous les formons Et nous disons que chacun doit pouvoir jouer un rôle dans la vie publique. Et Friedrich Naumann, j'aime citer cette pensée de Friedrich Naumann qui disait que vous ne pouvez pas avoir une démocratie fonctionnelle sans la participation politique des citoyens, mais vous ne pouvez pas avoir la participation politique des citoyens sans l'éducation civique. Ça veut dire quoi? La démocratie ne fonctionne que lorsque les citoyens sont engagés. Donc, si vous avez une démocratie où les citoyens s'intéressent à rien, la politique est laissée dans les mains seulement des partis politiques, la démocratie ne va pas fonctionner. Donc, il faut qu'on forme les jeunes, qu'on forme les citoyens à s'engager dans la société civile, à s'engager dans des partis politiques, à s'engager comme des intellectuels. Chacun à son niveau peut jouer un rôle. Et c'est ce qu'Angela Merkel a fait très jeune. Elle s'est engagée dans des mouvements. Elle était très jeune, autour de 16 ans, 17 ans. Elle s'est engagée très jeune dans des mouvements associatifs, dans des mouvements plus tard. Elle s'est engagée. Elle a décidé de militer dans des partis politiques, mais elle était très jeune. Elle est devenue ministre autour de. Elle avait la trentaine, 35 par là, 35 ans à peu près. Elle est devenue ministre et elle a montré comment elle pouvait assumer elle pouvait assumer des responsabilités. Et vous pouvez voir qu'elle a été l'un des rares chanceliers à faire 4 mandats, à faire 4 mandats à 16 ans. Il n'y en a pas beaucoup comme ça en Allemagne qui l'ont fait, mais parce que les Allemands lui ont fait confiance, mais c'est aussi parce qu'elle a fait preuve d'intelligence politique. Elle a appris. Elle a appris. Donc, bref, pour dire que la formation politique est le socle de tout, tout l'engagement politique que nous demandons aux jeunes. Il faut qu'ils se forment. C'est par la formation que nous pourrons être efficaces pour servir notre pays, comme Angela Merkel l'a fait brillamment. Et après ses 4 mandats, elle a décidé de partir. C'est aussi ça qu'il faut enseigner aux jeunes.
En tout cas, merci infiniment à vous, Magloire Ndeye. Et je rappelle que vous êtes chef du bureau de la Fondation Friedrich Naumann. Et ensemble, nous avons parlé de la chancellerie allemande, mais aussi du parcours d'Angela Merkel. Mais surtout, on dira, des actions qu'elle a eu à mener durant les différents mandats qu'elle a fait à la tête de la chancellerie allemande. Merci et portez-vous bien.
Merci beaucoup, Gislain. Merci à Radio de la Paix de m'avoir invité.